Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Aujourd'hui, Franck Ferrand nous plonge au cœur de l'histoire d'une très vieille maison de joaillerie. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. On peut même parler de la plus vieille maison, puisque Mellerio di Meller, rue de la Paix, fête cette année ses 400 ans. Pour nous en parler, j'ai convié l'auteur du grand ouvrage anniversaire, Vincent Mellan. Nous allons donc parler de rangs de perles et de rivières de diamants aujourd'hui. Et pour commencer, j'aimerais vous parler de la collection de bijoux de Marie-Antoinette.
Et tout à l'heure, vous répondrez à la question de Christine qui voulait savoir d'où vient le mot gringalet.
Et oui, gringalet. Il faut reconnaître que la question est étrange, mais vous verrez que la réponse ne l'est pas moins. Pour le moment, place à l'éblouissement des grands joyaux.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
La couverture du beau livre de Vincent Mellan chez Télémaque, Mellerio di Meller, joaillier des reines, la dauphine Marie-Antoinette, mais alors la dauphine parée de diamants, en tour de cou, en parure d'oreilles, en nœuds sur les manches, en diadème, un diadème de perles et de diamants qui court dans sa profuse chevelure, manière de rappeler le rôle déterminant de cette princesse dans l'histoire de la maison quatre fois séculaire. Du reste, le premier chapitre, en deux parties de ce livre, porte sur Marie-Antoinette et sur son goût immodéré pour les joyaux en général et les diamants en particulier. Alors, tout à l'heure, Vincent Mellan va nous raconter la découverte qu'il a faite dans les archives de la maison Mellerio. Il va nous parler de cette Madame de Crawford, autrement connue sous le nom de Madame Sullivan, et de son lien avec Marie-Antoinette, un lien assez particulier puisqu'il s'agit du célèbre Fersen, Axel de Fersen. Pour le moment, j'aimerais vous parler de quelques-uns des bijoux célèbres de la reine, ou plutôt, dans un premier temps, de l'archiduchesse, car il semble bien que la toute jeune Antonia, avant même de devenir la dauphine de France Marie-Antoinette, il semble bien qu'elle se soit très tôt intéressée aux joyaux. Alors vous savez qu'elle arrive très jeune en France, bien entendu. On a beaucoup raconté ce passage de la jeune archiduchesse en France. Elle arrive à Strasbourg et alors on dit qu'on l'a mise complètement nue, qu'on l'a entièrement dévêtue pour être certain qu'elle ne passerait rien en France autre que, en quelque sorte, son âme ou son corps nu. En vérité, c'est pas tout à fait vrai. Il semblerait bien que la future dauphine, celle qui allait devenir la dauphine, se soit seulement mise à part dans un cabinet autrichien qui venait d'être réalisé dans cette maison élevée pour la circonstance, simplement le temps de passer une robe de cérémonie qu'elle avait apportée de Vienne. Alors, la fiancée, dit-on, a même pu conserver ses bijoux de jeune fille. Alors, il n'y avait pas énormément de choses. C'est joli d'ailleurs l'inventaire des bijoux de la dauphine au moment où elle arrive en France. Un collier en esclavage, imaginez tout simplement une sorte de petit tour de cou, bien entendu, qui à l'époque était sur un ruban de dentelle, de très fine dentelle. Des aigrettes, une prétention, des boutons de compère. On est toujours dans ces boutons, dans ces boucles, hein, dans tout ce qui tient les manches, les corsages, etc. Donc, un bouton de compère, des boucles de chien, un bec de diamant pour sa chevelure et une petite montre. Alors là, cette montre, elle est très particulière. Elle est chère au cœur de l'archiduchesse puisque c'est sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, qui la lui a donnée comme une sorte de souvenir juste avant qu'elle ne quitte Vienne. Alors, vous savez, vous imaginez évidemment toutes les cérémonies qui accompagnent l'arrivée de la dauphine en France. Elle passe de ville en ville, on lui fait des cadeaux, des présents. Et d'ailleurs, on peut dire que cette arrivée se fait dans une atmosphère de luxe en général, puisque sur la voiture même figurent des bouquets de fleurs en or. Il faut imaginer la profusion de tout cela. Évidemment, ce qu'attend avec impatience la petite archiduchesse qui va devenir la dauphine de France, ce sont les cadeaux qu'elle va recevoir au moment de son mariage. Pour l'instant, les bijoux que nous venons de voir, ce sont quand même d'assez humbles bijoux qui viennent de la cour d'Autriche. Très bientôt, à Compiègne, il va en être tout différemment. Alors déjà, lorsqu'elle arrive au château de Compiègne, après avoir rencontré la famille royale de France, elle est introduite dans sa chambre par le maître des cérémonies qui apporte portent 12 anneaux de mariage fournis par le surintendant des menus plaisirs, par Monsieur Papillon de La Ferté. Il faut qu'elle choisisse en effet celui qui va aller exactement à sa taille, à son doigt. On le lui enlève car elle ne le portera véritablement que le surlendemain, au moment de la cérémonie de mariage. Et donc ce surlendemain arrive, on est le mercredi 17 mai, le matin du mariage, et tandis qu'on achève de la revêtir d'une robe d'argent, il faut imaginer encore une fois la somptuosité de tout ça, on lui apporte, s'il vous plaît, les bijoux de la couronne de France. Et oui, puisque la reine Marie Leszczyńska n'est plus de ce monde, elle est la première dame du royaume, elle va pouvoir les porter, ces bijoux. Et quand je dis des bijoux, des pierres tout à fait extraordinaires. Il y a notamment les 12 diamants qu'on appelle les Mazarins, du nom du cardinal qui les avait acquis à l'époque. Il y a le Savoie. Le Savoie, c'est un extraordinaire diamant rose. Il y a des perles, mais alors quand je dis des perles, en l'occurrence, 3 rangs de perles fines, dont la plus petite avait la taille d'une aveline, nous dit-on. Vous imaginez ces perles gigantesques qui avaient été rapportées en son temps d'Espagne par Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV. On peut dire que la jeune archiduchesse est complètement éblouie par la somptuosité des joyaux qu'on place devant ses yeux et qui vont devenir les siens. Et c'est peut-être à ce moment-là que la dauphine s'est prise d'une véritable fringale de bijoux. Une fringale qu'elle ne saura jamais réfréner, puisqu'une fois montée sur le trône, alors là, véritablement, elle va faire des commandes incroyables. Dès la fin de l'année 1775, il faut savoir quand même que Louis XVI a donné à sa femme plus de 100 000 écus de diamants, vous imaginez. Dès la fin de 1775, elle va passer commande à la célèbre maison Boehmer et Bassange d'une paire de girandoles de diamants qui valent 348 000 livres. C'est une somme complètement gigantesque. 348 000 livres, ça représente des dizaines de millions de nos euros actuels. Alors on se dit, où prend-elle ça? Eh bien, il semblerait que la jeune reine ait tout simplement pris sur les fonds de sa cassette destinée à faire des dons et des aumônes. Eh oui, que voulez-vous, ça c'est le côté obscur de l'affaire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous revenons à la création de la maison Mélériot avec la reine Marie-Antoinette, Franck.
La jeune reine Marie-Antoinette qui adore véritablement les joyaux. Je vous ai parlé de la grande commande qu'elle fait à la fin de l'année 1775. Elle est montée sur le trône seulement en 1774. Donc ça fait partie des premières commandes de la souveraine depuis qu'elle est devenue reine de France. Eh bien, 6 mois plus tard, au mois de juin 1776, la reine fait exécuter sans le dire à son mari 2 bracelets de 300 000 livres pour lesquels elle doit donner en échange des pierreries, des bijoux et qui ont été racheté à un prix pas très avantageux, mais ça ne suffit pas à couvrir la note et Marie-Antoinette va être obligée d'avouer à son mari, d'avouer à Louis XVI qu'elle a fait un achat un peu inconsidéré. Immédiatement, il faut imaginer que les hommes de l'impératrice Marie-Thérèse à la cour de France, et notamment Mercier Argenteau, tiennent au courant la cour d'Autriche. Le monarque reçut cette proposition avec sa complaisance ordinaire, écrit Mercier Argenteau. Il se permit seulement de dire en douceur qu'il n'était point surpris que la reine fût sans argent, vu le goût qu'elle avait pour les diamants. Après cette remarque, les 2000 louis furent donnés le lendemain. Eh oui, le pauvre Louis XVI est bien trop gentil. Il passe tous ses caprices à son épouse qui, évidemment, ne se gêne pas. Marie-Antoinette est quand même réprimandée par sa mère. L'impératrice Marie-Thérèse n'est pas contente du tout. Une souveraine s'avilit en se parant, lui écrit-elle, et encore plus si elle pousse cela à des sommes considérables et en quel temps. Il faut expliquer qu'à l'époque, les finances de la couronne ne sont vraiment pas glorieuses. Et pourtant, les achats se poursuivent. Une parure de rubis et de diamants bleus, une nouvelle paire de bracelets, 200 000 livres quand même, on est toujours dans des sommes complètement extraordinaires. Elle va refuser cependant le magnifique collier confectionné par Boehmer et Bassange et que le roi veut lui offrir en 1779 pour ses relevailles, c'est-à-dire juste après la naissance de Madame Royale. Il s'agissait d'un extraordinaire collier. Alors en esclavage, encore une fois, importé au départ près du cou, composé de 647 diamants, dont 17 qui étaient gros comme des noisettes. Vous imaginez ces choses extraordinaires. Et alors on connaît la phrase de Marie-Antoinette qui refuse le cadeau de Louis XVI et qui lui dit que la France aurait sans doute davantage besoin d'un vaisseau de guerre que d'un bijou. Ah, on se dit quand même, elle devient un peu raisonnable, cette Marie-Antoinette. Et de fait, on sait qu'à partir des années 1779-80, elle arrête ses grands achats. pas de joyaux. Et notamment en 80, alors quand même, en 80, elle a fait un achat chez des Mélériaux dans des circonstances que nous raconte Vincent Mélan. Un jour de 1780, dit-il, alors qu'il proposait ses merveilles aux curieux devant les grilles de la cour royale du château de Versailles, la voiture de Sa Majesté, rentrant de la promenade, s'était arrêtée devant Jean-Baptiste Mélériaux. La reine avait demandé à une de ses dames d'honneur de descendre afin d'examiner la marmotte du jeune Lombard. Le goût de Sa Majesté pour les joyaux était légendaire et justement, elle avait remarqué un bracelet. Ce bracelet, elle va l'acheter bien entendu et depuis, il s'est transmis de dame d'honneur, de mère en fille on va dire, et on le connaît toujours. Il fait toujours partie des collections d'une grande famille actuelle. Néanmoins, le 12 juillet 1785, la reine se trouve à Versailles lorsqu'elle voit arriver les joailliers de la couronne, Boehmer et Bassange, qui lui proposent, en même temps, ils sont venus lui livrer une épaulette et des boucles en diamant, et ils lui proposent le célèbre collier. Or, ce collier, permettez-moi de vous rappeler qu'elle va le refuser, qu'elle le refuse complètement. « Madame, dit Boehmer dans le petit billet qu'il a glissé à la reine, nous sommes au comble du bonheur d'oser penser que les derniers arrangements qui nous ont été proposés et auxquels nous nous sommes soumis avec zèle et respect sont une nouvelle preuve de notre soumission et dévouement aux ordres de votre majesté et nous avons une vraie satisfaction de penser que la plus belle parure de diamant qui existe servira à la plus grande et à la meilleure des reines. » Et la reine lit ce billet et ne comprend pas du tout de quoi il s'agit. Et pour cause, toute cette affaire s'est faite dans son dos et elle est la victime d'une arnaque. Alors, je ne veux pas vous raconter ici l'histoire de cette formidable arnaque ourdie par Madame de Lamotte sur le nom de Marie-Antoinette, j'allais dire sur le dos de la reine. Une arnaque destinée en fait à soutirer des millions au trop crédule cardinal de Rohan. Vous savez qu'on a fait croire au cardinal de Rohan que la reine Marie-Antoinette n'avait pas les moyens de s'offrir cet extraordinaire collier et qu'elle lui serait très reconnaissante s'il acceptait d'avancer les sommes. Sauf qu'en vérité, bien entendu, la reine n'avait jamais été mise au courant. Elle était totalement blanche dans cette affaire. Et pourtant, l'affaire aura des conséquences politiques extrêmement lourdes, vous le savez. Marie-Antoinette a été considérée par l'opinion publique comme coupable ou en partie coupable dans cette affaire dont elle était en vérité complètement innocente et ces diamants vont devenir le symbole des excès de la souveraine même si à l'époque ces excès n'ont plus cours et l'on peut dire que c'est l'affaire des diamants qui devient en quelque sorte le préambule de la Révolution française et qui va conduire la famille royale où l'on sait. Après tous les déboires, le départ de Versailles, la longue période au château des Tuileries et puis l'incarcération à la prison du Temple, Marie-Antoinette va essayer de faire sortir ses grands joyaux de France. Pas les joyaux de la couronne, je précise, évidemment, ses propres bijoux. Notamment par un émissaire, elle parvient à faire porter au régent, c'est-à-dire au comte de Provence, après la mort de Louis XVI, le cachet aux armes de France et l'anneau du roi sur lequel se trouve gravé M.A. Marie-Antoinette, L.A. Louis-Auguste, 19 avril 1770, cet anneau qui avait été béni à l'église des Augustins de Vienne avant son mariage par procuration. Elle va essayer surtout de faire passer aux Pays-Bas tous ces grands diamants. On peut dire qu'à partir du moment où elle est prisonnière au temple et plus encore à la conciergerie, elle ne garde plus avec elle que quelques joyaux extrêmement chers à son cœur qui sont plutôt des souvenirs et que l'époque des aigrettes et des grands colliers à l'esclavage est totalement passée.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
sur Europe 1 un extrait de la messe du couronnement. Vous continuez, Franck Ferrand, à nous parler du joaillier des reines, Mélériot, et notamment celui de Marie-Antoinette.
C'est le cher André Castelot qui raconte la scène suivante. Dans la nuit du 1er au 2 août 1793, les commissaires de la commune viennent réveiller Marie-Antoinette pour la conduire à la conciergerie, antichambre de la guillotine. Sans dire un mot, elle se lève, la pauvre femme n'a plus désormais la force de réagir, et sans s'émouvoir, elle prépare le paquet de ses hardes, puis en présence de ses hommes qui ont envahi la chambre et refusent de la laisser seule, elle s'habille et à leur demande leur donne ses poches, c'est-à-dire ce qu'elle avait sur elle. Les municipaux, après l'avoir fouillée, lui laissent seulement un mouchoir et un flacon de sel de peur qu'elle ne se trouve mal. Ils se saisissent du reste dont ils font un paquet. On la presse, elle embrasse sa fille en lui recommandant de prendre courage et soin de sa santé. Elle a laissé à sa fille un bracelet et un collier dont 7 rangs de chaînettes réunissent des chatons rectangulaires qui contiennent des cheveux de Louis XVI, de Louis XVII, de Madame Royale et de l'impératrice Marie-Thérèse. Alors elle va arriver à la conciergerie. Vous savez qu'au moment où elle entre à la conciergerie, c'est exactement comme si c'était une fille de joie qu'on avait ramassée dans la rue. On lui fait déposer sur la table, on lui fait mettre tout ce qu'elle avait sur elle. Elle est totalement abasourdie du traitement qu'on lui réserve Marie-Antoinette. Et au moment de son procès, on va ouvrir devant le président Herman, on va ouvrir le paquet des objets qui ont été saisis. Alors on lui demande ce qu'il y a là. « Un paquet de cheveux de diverses couleurs, dit Fabricius avec son accent marseillais. « Ils viennent de mes enfants morts et vivants et de mon époux, dit-elle. « Un autre paquet de cheveux, ils viennent des mêmes personnes, répond la reine. « Un papier sur lequel sont des chiffres, c'est une table pour apprendre à compter à mon fils. « Une servante ou petit portefeuille garni de ciseaux aiguilles, soie et fil. « Un petit miroir, une bague en or sur laquelle sont des cheveux. « Un papier dans lequel sont deux cœurs en or avec les lettres initiales. « Un autre papier sur lequel est écrit « Prière au Sacré-Cœur de Jésus, « Prière à l'Immaculée Conception, « Un portrait de femme. » Herman lève le nez. De qui est ce portrait? Alors la reine répond, de Madame de Lamballe. Deux autres portraits de femmes. Quelles sont les personnes représentées? Demande de nouveau le président. Ce sont deux dames que j'ai connues à Vienne, dit la reine. Et quels sont leurs noms? Les dames de Mecklembourg et de Hesse. Et puis, une bague en or, deux cœurs en or et la fameuse montre pendue à un clou de son cachot. Marie-Antoinette n'a plus que cela comme bijou. Et vous savez que, en fait, tout cela sera vendu aux enchères, comme on faisait toujours après son exécution. Bien après, puisque c'est en l'an 5 que le commissaire d'Ardoise procède à la vente aux enchères des petits biens saisis sur Marie-Antoinette tout à la fin de sa vie. Il ne restera plus que le petit étui, la petite servante de maroquin vert, et ce sera vendu 5 francs 75 centimes. Il y a aussi les trois petits portraits dans les étuis de chagrin qui atteignent 4 francs 40. Quant au reste, il a disparu, il a été volé et on ne sait pas par qui. Alors, au moment où Marie-Antoinette sort du tribunal révolutionnaire pour être reconduite à son cachot, pour y passer sa dernière nuit avant qu'elle ne soit exécutée le 16 octobre 1793, il y a un témoin qui est un témoin important pour ce qui nous concerne aujourd'hui, puisque l'un des gardes municipaux qui a répondu la veille à la convocation de la Commune de Paris, c'est François Mélériot, joaillier de son état, qui, alors que toute sa famille était partie à ce moment-là, est resté, lui, à Paris. Il va devenir donc garde municipal et puis très vite, comme il est menacé d'arrestation, il va devoir s'engager. Il a 21 ans, François Mélériot, à ce moment-là. Il s'enfuit avant qu'on ne l'arrête, il s'enfuit de chez lui et il a l'idée d'aller s'engager dans les armées de la République. À l'époque, évidemment, la République est en danger. S'engager dans l'une de ces trois armées était la solution, nous dit Vincent Mélan. Et les sergents n'étaient pas très regardants sur le civisme des recrues. Sous un uniforme de soldat, personne n'aurait eu l'idée d'aller chercher l'un des joailliers de la cour de France, d'aller chercher François Mélériot. Bonjour Vincent Mélan.
Bonjour.
Ce François Mélériot, finalement, c'est le petit nouveau, c'est le dernier venu de la lignée sous l'Ancien Régime.
C'est le dernier venu sous l'Ancien Régime et c'est surtout le grand homme de la dynastie. C'est lui qui donne à cette dynastie de joaillier ses lettres de noblesse parce que après ce départ catastrophique et à la sauvette sans rien...
Il va revenir. Il va devenir l'un des grands joailliers de l'Empire et puis surtout de tout ce qui va,
et,
tout
ce qui surtout, va suivre. Et surtout, il va être un type qui a la baraka pendant toute sa vie. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup frappé. J'aime beaucoup François Mélériot. J'ai un gros faible pour lui. C'est un vrai héros de roman. C'est un peu un héros à Alexandre Dumas. Et pour vous dire la vérité, j'étais un petit peu je doutais un peu de ce qu'on disait dans la tradition familiale, parce que Mellerius, c'est encore une entreprise familiale, donc on se raconte les choses de génération en génération. Et l'épisode de la conciergerie, tout ça, Marie-Antoinette, je me disais, bon, très bien, ok. Et en fait, justement, parce que c'est une entreprise familiale, en travaillant sur mon livre, je me suis aperçu que certains membres de la famille m'apportaient des documents qui n'étaient pas forcément dans les archives de la maison, entre autres des convocations de la garde nationale, dont une que j'ai reproduite dans le livre. Et on voit très clairement qu'en fait, la légende, elle a des bases très très solides, parce qu'on a des convocations de la garde nationale au nom de François Mellerius, qui date de 1790, 91, 93.
Seulement la tradition orale des Mellerius, ça s'appuie aussi sur un certain nombre de documents. C'est tout le principe d'ailleurs de l'ouvrage que vous venez d'écrire. Alors, ce chapitre Marie-Antoinette, il comporte une deuxième partie avec la découverte d'un personnage étonnant. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de la grande maison Mellerius, 400 ans de joaillerie. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Vincent Mélan, journaliste et historien, spécialiste de la haute joaillerie.
Vincent Mélan, auteur de Mellerius di Meller, joaillier des reines, l'ouvrage du 400e anniversaire de cette dynastie de bijoutiers. Alors on va y revenir évidemment à cette origine et à l'année 1613. Un mot avant du grand personnage que vous nous faites découvrir. Vous fouillez dans les archives de Mellerius et vous tombez sur une certaine dame, Vincent Mélan.
Qui justement n'est pas une reine, parce qu'en fait le livre est joaillier des reines, parce que toutes les reines d'Europe dans l'histoire sont clientes de Mellerius, et là justement il y avait une femme qui n'était pas une reine. Vous connaissez ça par cœur en tant qu'historien, de temps en temps on se retrouve confronté à un document et vraiment on a un petit frisson dans le dos, parce qu'on dit ça y est, j'ai le truc que je cherche depuis des années et des années. Et en feuilletant les livres d'archives, parce que je les ai tous faits page par page pendant des années, j'ai trouvé un nom qui m'a fait mais fantasmer, qui était Madame de Crawford. Et Madame de Crawford, ça ne dit rien à beaucoup de gens, mais
sous
pour
son
des
autre
gens,
nom, on la connaît
pour,
un petit
pour
peu
des
mieux,
gens comme vous et moi, ça dit un peu quelque chose. Oui. C'est un personnage de légende. Alors je vais essayer.
On la connaît comme Madame Sullivan.
On la connaît comme Madame Sullivan. En fait, elle s'appelait Anna Eleonora Franchi. Elle était italienne de Lucca. Elle arrive chez Mellerius en 1804, au moment où François Mellerius revient à Paris. Il ouvre sa boutique rue du Coq Saint-Honoré, c'est-à-dire en face du Louvre. Elle est une des premières clientes. Et quand je dis cliente, c'est bonne cliente avec des dizaines de bijoux qu'elle achète à chaque fois. Et elle est à l'origine danseuse dans les années 1760 à Lucca en Italie. Elle est fille d'un costumier de théâtre. On croit supposer qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Je vous fais le récit très rapidement, mais je le détaille dans mon livre. C'est vraiment une héroïne fabuleuse. Elle part à Venise, elle se produit au carnaval à la Fenice. Le duc de Wurtemberg, qui comme tous les princes allemands de l'époque était marié à une Allemande un peu revêche, tombe amoureux de cette adorable danseuse qui avait 16 ans. Lui dit « Je suis fou de vous, je vous emmène chez moi à Ludwigsburg. J'ai un théâtre, vous allez être la prima ballerina. »
On est vraiment dans la légende 18e telle qu'on peut l'imaginer.
Complètement, et tout ça sur fond de folie baroque, de ballet, de choses extraordinaires. Elle reste 2 ou 3 ans à Ludwigsburg. Elle a une fille, elle s'ennuie un peu, finalement elle se lasse, elle part à Vienne, elle devient la maîtresse de Joseph II, l'empereur d'Autriche, à l'époque elle a 18 ans, l'impératrice Marie-Thérèse voit ça d'un mauvais œil, la fiche à la porte, elle part en exil à Paris, elle s'ennuie, elle se dit j'ai eu des amants, je vais me marier, elle a 19 ans, elle rencontre un Irlandais sans fortune, Monsieur Sullivan, qui lui dit...
Je vais donc lui donner son nom.
Qui lui donne son nom et qui l'épouse, et qui lui dit... On va faire fortune ensemble. Qu'est-ce qu'on fait à l'époque pour faire fortune? On part en Inde. Et cette petite danseuse italienne qui sait ni lire ni écrire prend le bateau pour Bombay avec son mari, où en fait elle va rester quelques mois, parce qu'en arrivant en Inde, elle s'aperçoit que M. Sullivan est juste une nullité absolue. Il tombe malade, il ne sait rien faire. Donc elle plante son mari et elle prend un amant, qui est un Écossais, M. Crawford, qui lui est beaucoup plus vieux mais qui est très riche. Et lui, il lui dit, écoutez, je vous aime, je suis fou de vous, mais je vais vous enlever. Et le seul endroit où moi, ma fortune faite, je peux la dépenser, c'est Paris. Et donc, il la ramène à Paris 6 mois plus tard. Elle revient à Paris. Ils achètent une très belle maison rue de Clichy.
Oui, c'est le grand Paris.
C'est le grand Paris des années 1780. La maison existe toujours. Et comme elle a son vieil amant qui est très riche, qui est très sympathique, mais un peu ennuyeux, elle décide d'en prendre un jeune.
Et alors là attention, qui est l'amant?
Voilà.
Le nouvel amant de Madame de Crawford.
C'est Axel de Fersen, l'homme que Marie-Antoinette aimait pendant des années.
Est-ce qu'on peut dire qu'elle va partager Fersen avec la reine Marie-Antoinette?
Moi, je crois qu'elles se sont... Vous savez, on s'interroge beaucoup sur les relations entre la reine et Fersen, compte tenu des relations qui existaient entre Madame de Crawford et Fersen, qui alors là sont très, très sensuel. On a des lettres de Fersen à sa sœur, des lettres de sa sœur à Fersen. On a des témoignages. On parle de cette femme comme étant quand même une espèce de bombe sexuelle de l'époque. Hein. Vraiment, elle attirait le regard des hommes. Je pense que vu ce qui se passait entre Axel et Eleonora, je pense que Axel Marie-Antoinette, ça devait être très platonique quand même.
Oui. En fait, la liaison, la vraie liaison, elle est plutôt avec Madame de Crawford, nous dites-vous.
Il me semble. Ouais. Et là où elle devient héroïque, où elle devient un personnage historique, c'est qu'en fait, on le sait peu. C'est elle qui avance l'argent à Fersen pour financer la fuite à Varennes. Les 300 000 livres qui sont nécessaires pour acheter la berline, pour acheter les provisions. C'est elle qui met les provisions dans les coffres de la berline.
Pour nos plus jeunes auditeurs, hein, cette fuite, le roi est donc aux Tuileries avec la reine depuis maintenant trop longtemps. Ils ont l'impression d'être un peu prisonniers.
Ils sont très surveillés.
De la politique parisienne. Et donc le roi veut prendre le large. On pense qu'il fuit en vérité vers Luxembourg. Le but officiel, c'est Montmédy. Et ils seront arrêtés en route à Varennes et ramenés à Paris. Et à partir de ce qu'on appelle donc la fuite à Varennes, on peut dire que c'est la fin de la monarchie en France.
Le début de la Révolution, dans sa phase la plus violente. Mais la fuite à Varennes se fait dans une berline, ils partent la nuit, et tout ça
la voiture est de Madame de Korff.
Voilà, et tout ça est financé par Madame de Crawford, qui va, par exemple, vous citez de Madame de Korff, c'est elle qui va à l'ambassade de Russie récupérer les passeports au nom de Madame de Korff. Donc vraiment, elle est très impliquée là-dedans, elle paye cette fuite, elle part le même jour avec Monsieur de Crawford, mais eux réussissent à passer la frontière sans encombre, et son destin continue et ne s'arrête pas, c'est ça qui est fascinant. C'est qu'elle reste 10 ans en exil, elle se sépare de Fersen, qui retourne en Suède, qui meurt dans des circonstances compliquées, et elle en
dit... Oui, il meurt complètement lynché par la foule.
Lynché par la foule.
Beaucoup plus tard, donc en 1800. Non,
et elle, dans les années 1802-1803, entre-temps, elle a épousé Monsieur de Crawford, parce que le Monsieur Sullivan est mort de sa belle mort en Inde. Monsieur et Madame de Crawford n'ont qu'une envie, c'est de rentrer en France. Ils se font rayer de la liste des émigrés par un personnage qu'on connaît tous, qui est un de leurs amis proches, qui est le prince de Talleyrand, parce que Monsieur de Talleyrand fréquentait beaucoup chez Madame de Crawford, ce qui donne une idée du charme de la dame, quand même. Et ils s'installent alors, en rentrant à Paris, dans une toute petite maison, parce qu'ils ont conservé des très gros moyens financiers, leur fortune était en Angleterre. Cette petite maison s'appelle l'Hôtel Matignon, qui est l'actuelle résidence du Premier ministre. Et ça devient, sous l'Empire, l'Hôtel Matignon, un nid d'espions, parce qu'elle espionne pour les royalistes et son mari espionne pour les Anglais. Donc Napoléon les installe en résidence surveillée. Il y a des témoignages, on dit cette femme est une garce épouvantable qui mène ce vieux Crawford par le bout du nez. Mais elle a un vrai rôle politique. Et 1814, la Restauration. Et alors là, Madame de Crawford, qui est une ancienne danseuse, presque une prostituée quand même, devient une sainte. Ça devient un monument historique. Tout le monde va
rendre
visite.
Oui, parce qu'elle est celle qui, pendant la Révolution et au-delà, a soutenu les mouvements royalistes et est restée entièrement fidèle.
Et est restée fidèle jusqu'au bout. Et le premier dossier d'indemnisation financé par Louis XVIII sur sa cassette privée avant les votes des lois est celui de M. et Mme de Crawford. Et il leur verse quand même 1 700 000 livres de l'époque, ce qui est une somme colossale. Il y a des achats chez Mellerio qui sont faits après l'indemnisation, qui sont très très importants parce qu'elle dépensait beaucoup d'argent.
C'est une bonne cliente Mellerio.
C'est une cliente fabuleuse. Ouais. J'avais partie de ces femmes qui faisaient la mode à l'époque, parce que quand Madame de Crawford portait quelque chose, toutes les autres femmes voulaient l'imiter. Et cette femme qui était danseuse, un peu prostituée, espionne, conspiratrice, héroïne, femme amoureuse, c'est un personnage de roman.
J'imagine que précisément parmi nos auditeurs, certains se disent « mais voilà le sujet de roman que je cherchais ». Elle ferait un personnage extraordinaire.
Alors, je précise tout de suite que j'ai le sujet pour moi. Parce que, alors je vais vous expliquer ce qui était fabuleux. Il y avait une coïncidence, de temps en temps, il y a des personnages qui vous tombent sur la figure. Je vous ai parlé tout à l'heure de la fille qu'elle a eue du duc de Wurtemberg. Et moi, je me demandais quand même à quoi ressemblait cette Madame de Crawford, parce qu'on n'a pas de portrait d'elle. Il y en a un dans le livre, mais par le plus grand des hasards, je me suis aperçu que sa petite fille, la fille de sa fille, dans les années 1820, avait fait le plus beau mariage de l'époque, parce que Madame de Crawford, devenue héroïne nationale, sa petite fille fait un très beau mariage, épouse d'ailleurs le petit-fils de la favorite de Marie-Antoinette, le petit-fils de la duchesse de Polignac. Donc on reste dans l'entourage de Marie-Antoinette. Ce petit-fils est le duc de Gramont. Et je peux le dire parce que c'est officiel, c'est dans le livre. Il se trouve que je connais le duc de Gramont actuel. Et je me suis dit, mais c'est pas possible.
Il doit y avoir quelque chose. Oui.
Et j'ai appelé la duchesse de Gramont et je lui ai dit, écoutez, est-ce que elle m'a renvoyé un courriel dans les 48 heures en me disant, c'est fabuleux. On a 2 portraits dans la liste de tableaux familiaux qui sont de Madame de Crawford et on ne savait plus qui elle était. Parce qu'il y a eu un siècle, au XIXe siècle, on était très bien pensant. Donc même chez ses descendants, on l'avait oublié. Et alors, on est en train de chercher, à l'heure actuelle, avec les Grammont, s'il n'y a pas des documents qui existent sur lesquels on pourrait s'appuyer. Il y a une autre recherche à faire, que j'essaie de faire aussi en ce moment, avec les Wurtemberg, puisque son amant était le duc de Wurtemberg. Et il doit y avoir des traces d'elle.
Bref, avis à la population, le sujet est réservé.
Et il est pris.
Alors, il faut que nous revenions sur l'origine de cette grande maison. J'ai dans les mains une plaquette qui s'appelle les Enochiens, association d'entreprises familiales et bicentenaires. Ce sont les plus anciennes entreprises d'Europe, dont certaines ont été fondées donc au XVIe, au XVIIe siècle. Et évidemment, la maison Mellerio di Meller fait partie de ces très vieilles entreprises. Elle est installée à Paris depuis 1613. C'est-à-dire que quand on pousse les portes de la joaillerie place rue de la Paix, il y a écrit depuis 1613. Ça ne s'invente pas.
La famille est installée à Paris vraisemblablement depuis 1515. Il y a une trace dans les années 1515. Vous savez qu'à Paris, il y a une rue des Lombards. Et c'était là que les marchands lombards vivaient. Les Mellerio étaient installés rue des Lombards. Le premier brevet royal est celui de Marie de Médicis en 1613.
Donc là, c'est la fondation de la maison, d'où le quatrième centenaire. Hein.
D'où les 400 ans. Et l'installation de la rue de la Paix. En fait, il s'installe rue de la Paix au moment où Napoléon fait percer la rue de la Paix en 1808-1809. Donc, ils sont rue de la
Paix. Parmi les premiers occupants de la rue de la Paix.
Plus de deux siècles.
Ah, c'est incroyable.
Et il faut quand même souligner que c'est toujours une maison qui est à 100% familiale. Il n'y a aucun actionnariat de groupe de luxe, etc. C'est toujours la famille Mellerio qui possède cette maison.
Alors, au départ, les Mellerio vendent de façon... on peut dire que ce sont un peu des colporteurs, d'une certaine manière.
C'est pas d'une certaine façon, c'est exactement ça. au départ, en plus, il faut savoir que sous l'Ancien Régime, les professions étaient réglementées d'une manière très stricte. Il y avait des corporations. Par le privilège de Marie de Médicis, les Mellerio ont réussi à échapper au monopole des corporations. Mais en fait, ils avaient le droit de vendre en utilisant ce qu'on appelle une marmotte. Il y en a une encore qui est dans la maison rue de la Paix, qui est celle de François, vraisemblablement. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils vendent des bijoux à Marie-Antoinette en présentant leurs bijoux.
C'est ce que je racontais tout à l'heure.
Dans leur marmotte. Et pour le coup, ils sont colporteurs. C'est seulement au 19e siècle, une fois que les corporations ont été abolies, qu'ils vont ouvrir la première boutique rue du Coq Saint-Honoré, dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est François Mellerio, dont je parlais, qui va avoir le génie commercial de donner à cette maison, parce qu'après, on a parlé de Madame de Crawford, mais il va conquérir la clientèle de l'impératrice Joséphine, des trois sœurs de Napoléon. Il va devenir le joaillier de la reine Marie-Amélie.
Alors ça, on y vient dans un instant. Un mot seulement sur ce qui s'est passé avant. On a quelques éléments, mais très peu. Quasiment pas de documents. Les premiers documents, ils datent du règne de Louis XV, en vérité.
Alors, il y a un document qui date du régent, qui remonte au régent, puisqu'il y a un brevet du régent. C'est le régent qui, en fait, leur donne le premier le droit de commercialiser des diamants. Avant, ils étaient plus sur des matières semi-précieuses, des objets. Le régent leur étend, en fait, leur privilège au commerce des diamants et des bijoux et des joyaux, à la pure joaillerie. Les premiers inventaires que moi j'ai retrouvés dans les archives sont des inventaires qui, d'ailleurs, sont en italien, qui datent de 1762-1763. Alors, il y a des choses qui sont très amusantes. Par exemple, il a page du registre du 14 juillet 1789. C'est là qu'on se retrouve quand même avec des choses assez fascinantes dans cette famille, parce que c'est la seule maison qui a encore ses archives antérieures à la Révolution.
Alors, tous les chapitres de cet ouvrage concernent des têtes couronnées de diamants, des grètes et de tous les joyaux qu'on peut imaginer. Nous y venons avec vous dans un instant, Vincent Mélan. Et pour commencer, évidemment, nous allons parler de Joséphine.
Écoutez Gounod sur Europe 1 avec l'air des bijoux, un extrait de l'opéra de Faust interprété par Victoria de Los Angeles. Et on vous retrouve Franck Ferrand pour parler cet après-midi de la grande maison de joaillerie Mellerio avec votre invité Vincent Mélan, journaliste et historien spécialiste de la haute joaillerie.
Comment vous est venue, Vincent Mélan, cette idée de consacrer l'ouvrage du 400e anniversaire de la maison Mellerio di Meller aux reines, disons, on devrait préciser aux souveraines d'une façon plus générale?
Le problème que j'avais avec cette maison, c'est qu'en fait, c'est une maison que je connais depuis très longtemps. Ça fait 25 ou 30 ans que je connais les Mellerio. Et 200 ans d'archives, si on doit parler des documents réels, c'est très très compliqué à trier. Comment est-ce qu'on fait un choix là-dedans? un livre, mon livre, il fait 450 pages. Je ne peux pas faire un livre de 2000 pages. Donc, il faut avoir un choix
arbitraire. Il est déjà très volumineux et très richement illustré. Hein,
donc, on ne pouvait pas tout dire. Donc, j'ai choisi un angle. Il m'a semblé que c'était la maison, sans doute, où il y avait le plus de souveraines qui étaient venues. Donc, j'ai choisi cet angle-là et j'ai laissé de côté. C'est vrai que Mellerio a quand même un côté assez, j'allais presque vous dire ancien régime. On le voit très bien aux origines de la maison, enfin, lorsque ça recommence au 19e siècle, c'est pas nettement un joaillier qui est très impérial. C'est vraiment, on voit des noms très anciens régimes. On voit par exemple Madame de Tourzel, la gouvernante des enfants de Louis XVI et Marie-Antoinette, sa fille, Pauline de Béarn. On voit Madame de Boigne, la mémorialiste célèbre. Donc c'est une clientèle très aristocratique qui allait bien avec ce côté royal que je développe dans le livre et qui est lié à la suite de l'histoire.
Alors j'ai promis à nos auditeurs qu'on dirait un mot de la douce et tendre Joséphine qui a fait partie des...
J'aime bien dire la torride Joséphine parce que je trouve que j'adore le côté...
Elle l'a été aussi. Hein,
elle l'a plus qu'été. Moi j'adore ces personnages qui ont une baraka pas possible. Joséphine est une femme qui a passé sa vie à mentir, à tricher, à dépenser de l'argent. Elle était redoutable et en fait elle s'en est tirée à chaque fois avec une grâce pas possible. Et il y avait ce rituel des marchands. C'est là quand même la seule souveraine française qui avait un salon qu'on appelait le salon des marchands, dans lequel tous les marchands devaient se rassembler le matin. Et la toilette de l'impératrice qui durait quand même 3 à 4 heures. On a tout le détail.
On peut dire qu'elle faisait son marché, c'est incroyable.
et les marchands étaient introduits les uns après les autres et elle ne refusait jamais rien. Donc elle achetait toujours, 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 toujours. Et on sait comment François Mellerio a été introduit chez l'impératrice Joséphine. Il était très lié à une de ses dames d'honneur, Madame de Ségur, qui est d'ailleurs la belle-mère de la comtesse de Ségur, celle des contes pour enfants dont la corbeille de noces est commandée chez Mellerio. Et Madame de Ségur lui obtient une audience de l'impératrice Joséphine. Donc il est arrivé un matin, je le raconte dans le livre, dans le salon des marchands de l'impératrice, deux mamelouks qui montaient la garde le font rentrer et il attend pendant 2h30 qu'on le fasse. Alors, c'était pas que frivole, parce que de temps en temps, Napoléon descendait du premier étage, les appartements de Joséphine étaient au rez-de-chaussée, et il paraît qu'il faisait régulièrement des razzias dans le salon des marchands. Il a même fait emprisonner une des vendeuses, parce qu'il trouvait que son épouse dépensait tellement d'argent que de temps en temps, il descendait lui-même et il fichait tout le monde à la porte. Donc ça pouvait être un peu dangereux. Mais on sait que Joséphine a craqué, elle a acheté beaucoup de camées. À l'époque, c'était la grande vogue des camées entourées de diamants, de perles et de pierres précieuses. Et c'est comme ça qu'en 1808-1809, elle devient une cliente de Mellerio. Les sœurs de l'empereur l'imiteront.
On suit la chronologie dans ce livre, évidemment. Et le chapitre 3 concerne une affaire qui m'intéresse particulièrement. Je fais beaucoup d'émissions là-dessus parce que c'est une des grandes énigmes, parmi les plus passionnantes d'ailleurs du 19e siècle. C'est l'énigme de Saint-Leu. Mmh. C'est la mort du dernier prince de Condé qui était cette nuit-là avec ou n'était pas avec sa maîtresse, la baronne de Feuchères. Toutes les hypothèses existent. Vous avez un point de vue très arrêté sur la question.
Mais, si vous voulez, ce qui était fascinant quand j'étais dans ces archives, c'est que je voyais des tas de gens qui étaient là au même moment, en même temps. Alors, on va le faire simple. La reine Marie-Amélie est une des plus grandes clientes de Mellerio.
Mais donc, vraiment, l'épouse de Louis-Philippe.
Cette femme qu'on dit pieuse, mère de famille, etc., est d'une dépense, un argent, mais colossal chez Mellerio. Elle achète des bijoux par centaines.
Elle est Bourbon-Sicile.
Elle est Bourbon-Sicile, elle achète des colifichets tout le temps. Elle est un peu napolitaine, elle adore ça. Et son mari, le duc d'Orléans, futur Louis-Philippe, lui constitue chez Mellerio une parure d'émeraude et de diamants dont il achète toutes les pièces année après année. J'ai donc la reine Marie-Amélie qui a une fabuleuse parure d'émeraude et de diamants et qui est cliente de Mellerio. Juste à côté, enfin quelques pages plus loin, je vois un autre nom, le prince de Condé ou le duc de Bourbon, qui est le dernier des Condés, qui est mort en 1830 dans des circonstances...
Il est mort juste au moment de l'avènement de Louis-Philippe, au moment où Louis-Philippe monte sur le trône,
et
voilà.
Et quelques pages plus loin encore, je vois le nom de la baronne de Feuchères, qui est la fameuse maîtresse du prince de Condé. Et alors la baronne de Feuchères achète entre 1829 et 1830 un nombre de diamants chez Mellerio, mais colossal.
Mais c'est incroyable, ça c'est très passionnant, parce que ça veut dire qu'en fait, ces registres de haute joaillerie, on pourrait dire la même chose de la grande horlogerie avec les Breguet par exemple, etc. Quand on suit ces registres, on peut suivre directement la fortune des gens. Et qui dit fortune dit aussi parfois affaires, y compris affaires louches. Pourquoi la baronne de Feuchères, d'un seul coup, est-elle à ce point en fond?
Alors, il y a une raison très particulière, c'est qu'à l'époque, Louis-Philippe avait donné cette fameuse soirée au Palais Royal en l'honneur de son beau-frère, le roi de Naples, à laquelle tout le monde avait été invité. Et l'invitation à cette soirée avait été un des grands enjeux de Madame de Feuchères, qui en tant que maîtresse du prince de Condé était boudée par la cour. Donc pour que le prince de Condé fasse son testament en faveur du duc d'Aumale, qui était le fils de Louis-Philippe, un des enfants de Louis-Philippe, la reine Marie-Amélie, à l'époque duchesse d'Orléans, avait dû s'entremettre auprès de sa cousine, la duchesse d'Angoulême, pour que Madame de Feuchères soit réinvitée à la cour. Donc participer à cette soirée au Palais Royal était un enjeu. Donc c'est sans doute pour ça qu'elle a commandé énormément de diamants, parce qu'elle voulait ce soir-là, pour sa première rentrée officielle. Alors, on peut peut-être aussi imaginer, mais ça je le dis pas, on peut le supposer, qu'elle avait envie de se débarrasser de son vieil amant et qu'elle en a profité pour acheter des tas de diamants pour avoir une petite réserve pour l'avenir.
C'est une possibilité.
C'est une possibilité de préméditation.
Toutes nos souveraines sont chez Mélériot, donc on a parlé, on a dit un mot de Joséphine, de la reine Marie-Amélie. Il faudrait parler de l'impératrice Eugénie, qui était, j'allais dire, une croqueuse de diamants, ça n'est pas très charitable, c'était surtout une très grande connaisseuse de pierres. Hein.
C'est une croqueuse de perles.
De perles d'ailleurs, aussi. Oui.
Beaucoup. Mais alors, ce qui est fascinant avec l'impératrice Eugénie, c'est que l'impératrice Eugénie est là, mais la cousine de l'empereur, la princesse Mathilde, est là aussi, et très, très colossalement présente. La rose en diamant qui est sur la couverture du livre vient de la princesse Mathilde. Et là aussi, il y a un petit truc, c'est qu'apparemment, c'est la princesse Mathilde qui a présenté à Mélériot la comtesse de Castiglione. Donc, comme on sait que l'impératrice Eugénie ne s'entendait pas très bien avec sa cousine, la princesse Mathilde, on peut imaginer que le fait que la comtesse de Castiglione était présentée à Mélériot par la princesse Mathilde, c'est une espèce de vacherie de la princesse Mathilde à l'impératrice. Enfin, toutes ces dames se disputaient l'adresse de leur couturier, l'adresse de leur joaillier. Et comme toutes les factures étaient en général payées par le même homme, c'était l'empereur, ça donne lieu par moments à des situations assez croquignolettes.
Vous avez appelé ce chapitre « La guerre des crinolines ». Car on est effectivement dans cette grande époque de faste, on va dire, c'est la fête impériale.
Qui se tirent leurs crinolines. Il y a un petit chapitre sur lequel, qui est juste avant, que j'aime beaucoup aussi, que j'ai appelé « Belle de nuit ». Qui est liée à l'Espagne.
Oui, personnage intéressant, Isabelle II d'Espagne.
Isabelle II d'Espagne. En 1848, révolution, à l'époque, c'est le fils de François Mélériot qui a pris la tête de la joaillerie, il s'appelle Jean. Ils perdent donc la clientèle royale puisque la famille royale part en exil. La cour, il n'y a plus de cour, c'est la République. Ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on trouve un débouché économique et des clients. Ils partent à Madrid puisqu'il y a la cour d'Espagne. Et on a les lettres que Jean Mélériot adresse à sa femme, et c'est des lettres qui sont très très longues, où il décrit tout, ses audiences au Palais d'Orient, le fait que le chambellan ne veut pas le laisser rentrer parce que le chambellan lui dit « je ne vous laisserai pas rentrer monsieur Mélériot, car si sa majesté voit des bijoux, elle va les acheter. Donc la liste civile est déjà déficitaire, on ne veut plus que sa majesté achète des bijoux. Donc il est obligé de faire intervenir une dame de la cour, puis il est introduit de nuit dans le Palais d'Orient, c'est pour ça qu'il appelle la reine Belle de Nuit, c'est lui qui l'appelle ainsi, et il raconte qu'on lui demande de déposer ses bijoux sur le billard pour que la reine vienne les admirer. Évidemment, elle achète tout. Et cette entrée, cette escapade à Madrid où les Mélériot vont ouvrir une boutique explique pourquoi l'impératrice Eugénie devient cliente. Parce qu'en fait, elle est déjà cliente à Madrid en
avant
1848,
d'être impératrice.
Impératrice. Et lorsqu'elle devient impératrice, bingo pour les Mélériot, qui ont un coup de bol fabuleux, c'est que cette petite aristocrate espagnole qui était cliente à Madrid,
Comtesse de Teba,
devient impératrice des Français.
Tout à fait extraordinaire. On peut dire que d'une façon générale, toute l'Europe se précipite dans ces grandes maisons, et notamment chez Mélériot. La reine des Pays-Bas.
Tous les bijoux que la reine Maxima porte aujourd'hui.
Tous les grands ducs russes, bien entendu.
Le prince Youssoupov de l'époque et sa mère. Grand-père de celui qui a assassiné Rasputin, qui achète tous les grands diamants familiaux chez Mélériot. Il y a énormément de personnes du début du XXe siècle très connues. Le Maharaja de Kapurthala, la comtesse de Chabrillan, tous ces personnages-là. Et évidemment, les descendants de la famille d'Orléans.
Alors, on pourrait parler d'autres aspects, puisqu'évidemment, Mélériot, par exemple, est à l'origine et le créateur de l'archange qui surmonte le Mont-Saint-Michel, par exemple.
On pourrait dire la couronne de Notre-Dame de Lourdes.
Par exemple. Donc, il y a toute cette dimension aussi de grands objets de culte catholique. Hein.
Et d'objets plus profanes, la coupe de Roland-Garros, c'est
Mélériot. Oui, c'est vrai, par exemple. Bon. Mais pour s'en tenir à nos têtes couronnées, faites-nous rêver, Vincent Mélan, puisque vous êtes le grand spécialiste des gemmes et des grands joyaux. À quoi ressemble un grand joyau de chez Mélériot? Moi, je les ai sous les yeux parce que je feuillette votre ouvrage, mais pour les auditeurs, il faut que vous décriviez la somptuosité, le style particulier de cette maison. Hein.
Alors écoutez, il y a quand même une chose qui est emblématique. Le problème des bijoux, c'est souvent qu'ils ont été modifiés au cours des siècles, donc on a du mal à les retrouver aujourd'hui. Heureusement, dans le cas de Mellerio, il y a beaucoup de choses qui existent encore. Moi, je trouve que très souvent, Mellerio, dans les volumes, par exemple, sur les fleurs, sur les parures un petit peu florales, fait des choses assez extraordinaires. C'est une tradition qui est restée dans la maison. Aujourd'hui encore, il y a énormément de bijoux liés à des motifs végétaux, à des motifs floraux dans la maison.
C'est ça, côté naturaliste.
Très naturaliste. Il y a un animal extraordinaire chez Mellerio, vous savez que tous les joailliers ont leur animal fétiche, et c'est une des choses qu'on a découvert en faisant ces recherches dans les dessins, parce qu'il y a des dessins.
C'est très amusant, ça.
C'est le paon. Parce que le premier paon arrive en 1867, et c'est l'impératrice Eugénie qui, lors de l'exposition universelle, achète une plume de paon en saphir, émeraude, diamant et rubis, qui est très très belle. Et quelques années plus tard, de la plume, on est passé à l'animal entier, qui est fait sous forme d'aigrette ou de broche ou de plaques de collier. Alors là, on a tout l'animal avec ses plumes qui sont souples en diamant. Il y a un travail d'émail pour les couleurs qui est absolument extraordinaire. Et le paon va régner chez Mellerio entre 1867 et 1914 à peu près. Donc il y a une incursion en 1910. Le paon est très art nouveau en plus dans son dessin. Il est très japonisant. Il y a beaucoup de choses assez intéressantes.
Et puis ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui encore, cette maison est aux mains des Mellerio. C'est-à-dire qu'on voit Monsieur Mellerio.
On voit Monsieur Mellerio quand on rentre. Il y avait même François Mellerio encore récemment. Il y a Émilie Mellerio, il y a Olivier Mellerio, il y a Laurent Mellerio. Les Mellerio sont chez Mellerio.
Dit Meller.
Mellerio, dit Meller, c'est... On a cru pendant longtemps que c'était la reine Marie-Amélie qui les avait appelés ainsi. Mais en fait, au 18e, on les appelait déjà Meller. À l'époque, on avait tendance à franciser tout. Donc on ne disait pas Leonardo da Vinci, on disait Léonard de Vinci.
C'était tellement plus simple.
On ne disait pas Mellerio, on disait Meller. Et il faut souligner aussi que les Mellerio sont originaires du nord de l'Italie, d'un petit village qui s'appelle Craveggia, dont ils sont partis en 1515 pour venir en France, et qu'ils ont toujours des liens avec Craveggia, ce village où ils ont des maisons, et quand dans le trésor de l'église principale de Craveggia, il y a quand même des choses très surprenantes, parce que c'est là qu'on se trouve, le drap mortuaire de Louis XIV, qui a sans doute été pillé à Saint-Denis sous la Révolution, et qu'un des Mellerio, par attachement roi de France a rapporté en Italie, et il y a surtout une chasuble qui est faite avec une robe de Marie-Antoinette.
Quel foisonnement non seulement de joaillerie mais d'anecdotes. Merci beaucoup Vincent Mellan. Mellerio di Meller, joaillier des Rennes, bon anniversaire à cette grande maison qui fête ses 400 ans. Votre ouvrage est publié chez Télémac.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez aujourd'hui, Franck Ferrand, à la question de Christine via le site internet d'Europe 1. D'où vient le mot gringalet ?
Mais c'est intéressant cette question de Christine, c'est un peu inattendu de se demander d'où vient ce mot gringalet. Mais je dois vous avouer que très souvent dans cette rubrique, dans cette chronique Retour aux origines, je connais la réponse à l'avance. Là franchement je n'en savais rien. Si vous m'aviez demandé il y a encore 3 jours d'où venait ce mot gringalet, eh bien, j'aurais pas su vous le dire. Vous savez qu'un gringalet, aujourd'hui ça désigne quelqu'un de pas très costaud. Hein. On va dire un homme chétif pour donner une définition du dictionnaire. D'ailleurs si on va regarder dans le littré, on se rend compte que le terme est employé comme un adjectif à Genève. On dit un cheval gringalet, un homme gringalet. Bon, alors d'où est-ce que ça vient ? Ben même le littré n'en sait rien. On sait que dans les 12, 13 et 14e siècles, un gringalet, dit-on, était une sorte de cheval. Ah, alors ça, c'est évidemment une indication. Parce que lorsque vous lisez les romans de chevalerie, vous vous rendez compte que gringalet, c'est le nom du cheval de Gauvain, notamment sous la plume de Chrétien de Troyes. Gauvain, chevalier des romans de la Table Ronde, hein, évidemment, des compagnons du roi Arthur autour de la Table Ronde. Donc, son cheval s'appelle Gringalet, et ça venait au départ de Cain Caled, en gallois, hein, puisqu'évidemment, dès qu'on parle d'Arthur et de la Table Ronde, on parle de gaélique. Cain Caled, ça voulait dire le beau, le fort, le vigoureux cheval. Donc, vous voyez, il y a bien cette notion. Le Gringalet, au départ, c'était un beau cheval. Alors comment est-ce que d'un cheval fort, vigoureux, on est arrivé à un homme chétif ? Eh bien peut-être tout simplement parce que ça n'a rien à voir, que le premier gringalet des romans de chevalerie n'a rien à voir, contrairement à ce que pensait peut-être notre auditrice Christine, n'a rien à voir avec l'origine, avec l'étymologie du terme. En vérité, nous dit le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey, en vérité le terme est attesté en 1611 au sens de bouffon amusant. Et on ne sait pas exactement d'où ça viendrait, ça pourrait être du suisse allemand, ça viendrait du gring Gringeli en Schwyzdeutsch. Et un Gringeli, c'est un homme qui est peu considérable. Alors là, on est très proche de notre gringalet à nous. Et on dit que ce sont justement des mercenaires et des gardes suisses qui auraient introduit ce terme à la cour de France, d'où le terme de gringalet pour désigner quelqu'un d'un petit peu clopin-clopant.